Radio Campus Lille, il est 8h.
Comme chaque premier lundi du mois, retrouvez Tous Essentiels, émission sur le revenu de base avec Virginie.
Merci Nadia, bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, un invité qui, figurez-vous, a connu Radio Campus à ses tout débuts. C'est pas dire, même Nadia qui va nous faire la technique aujourd'hui, on est abasourdis. Bonjour Marc.
Bonjour Nadia, bonjour Virginie. À l'époque, effectivement, où j'ai connu Radio Campus qui s'appelait Radio Lille, je pense que ni l'une ni l'autre de vous deux n'était née.
Mais toi aussi, visiblement.
C'était il y a 50 ans, et donc au moment où on se battait pour les radios libres, j'étais à l'époque maire de Mont-Saint-Barreul, et à la braderie de Lille de l'automne de septembre 80, j'étais allé expliquer sur sur Radio Lille qui tenait un stand à la braderie en quoi ce serait un outil de démocratie et d'échange. À l'époque, c'était sévèrement réprimé par la loi et la suite m'avait vu la seule condamnation judiciaire de ma vie. Mais comme elle a été prononcée juste après le 10 mai 81, les juges, connaissant l'avenir de cette loi liberticide, avaient convenu qu'il fallait me dispenser de peine. Et donc voilà mon premier contact avec Radio Campus Lille et Radio Lille à l'époque, qui me rajeunit grâce à vous deux. Mille merci.
Et rappelons que...
Et je profite de l'occasion tout de suite pour que les auditeurs m'excusent, ce n'était pas le cas il y a 50 ans, de cette vilaine loi. Il se trouve qu'il y a 20 ans, j'ai été affecté d'une tumeur au corps vocal qui a été à peu près soignée, mais il y en a des séquelles dont ils seront aujourd'hui, comme auditeurs, les victimes. Désolé pour eux, mais on doit pouvoir réussir à se comprendre.
En tout cas, on te dit merci parce que c'est aussi un effort que tu fais, tenir une heure, voilà, c'est un exploit en soi. Donc merci beaucoup toi aussi de surmonter ça. Et alors, juste pour un détail, c'est toi qui m'as appris qu'à l'époque, la radio était hébergée clandestinement à la maison des associations. Et oui, parce que être dans une radio et faire courir des...
Elle s'appelait, je crois, j'ai retrouvé depuis notre préparation, la maison de la vie associative, je crois. Et elle était à Ekerm, si mes souvenirs sont bons.
Et qu'à l'époque, faire chanter ces voix comme on le fait aujourd'hui sur des ondes, c'était pénalement punissable, quoi. Enfin, donc,
et ça l'était sévèrement.
Donc bientôt la gauche hein, pour continuer ses avancées. En attendant, profitons de cette liberté durement acquise par prédécesseurs pour notamment aujourd'hui te faire parler toi, Marc Wolf, au sujet d'une des versions de Revenu de base que tu portes du coup depuis assez longtemps. Alors notamment répercutée par la Fondation Jean Jaurès qu'on a déjà reçu ici à travers Timothée Duverger, mais c'est une autre version dont tu vas nous parler qui s'appelle une garantie de revenus vraiment universelle, c'est ça ?
Oui.
Alors ce que je te propose, c'est de d'abord passer à la moulinette de notre ritournelle. C'est une question. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, c'est à ton nom, il n'y a rien à faire et tu sais que tu l'auras jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça change pour toi ?
Alors Virginie, ni toi ni moi ne sommes vraiment concernés. D'abord parce qu'il ne s'agit probablement pas de suffisamment pour vivre, mais pour survivre. Et que donc, personnellement, je suis aujourd'hui retraité, les auditeurs l'ont compris par mon âge, tu es salarié actif, Nadia aussi. Et donc le dispositif qui est proposé est un dispositif de redistribution, de transfert depuis les 5% de tout en bas vers les 3 déciles, 5% de tout en haut, mille excuses, vers les 3 déciles du bas, les plus précaires et les plus défavorisés. Et nous ne sommes ni d'un côté ni de l'autre. Et donc notre motivation au MFRB, comme moi-même, autour dans la nébuleuse de la social-démocratie, c'est une motivation indirecte. Nous pensons que nous vivrions mieux si la société mieux, et donc que la société aille mieux, c'est faire société, c'est organiser la solidarité. Et donc c'est une proposition qui a cette motivation personnelle, militante, comme pour toi-même et les copains du NFRB, mais qui, de ma vision, se situe dans une perspective réformiste, social-démocrate, que j'assume comme telle et que je n'oblige pas les auditeurs à partager. Si cela est trop insolent pour leurs oreilles, ils reviendront une autre fois.
Donc, ce que j'entends finalement, c'est que toi, retraité, donc a priori, ça n'améliorerait pas ton quotidien. Par contre, ça te permettrait d'être plus serein parce que les autres iraient mieux et qu'il y aurait plus. Tu pourrais être plus en accord avec tes valeurs finalement, quand tu parles de.
Voilà, donc retraité après avoir été pas davantage concerné, comme je l'exprimais, après avoir été enseignant pendant 20 ans sur l'agglomération lilloise, puis cadre dirigeant au ministère des Finances. Donc effectivement, l'ambition, la motivation est une motivation militante d'avoir une société qui aille mieux parce qu'elle sera moins inégalitaire, plus solidaire et plus capable de dialogue.
C'est plus par le fait que d'autres souffriront moins de la précarité, de la misère, etc. Il pourra vivre dans un monde plus aligné, du coup plus serein, par rebond.
Voilà. On peut le dire comme ça.
Ok, et alors si jamais tu l'avais eu quand tu étais jeune, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi?
Quand j'étais jeune, le marché de l'emploi, c'était plus d'un demi-siècle, je l'ai dit, n'était pas le même. Et donc, je payais mes études en ayant travaillé. Et donc, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes études. Nous verrons que dans la proposition, il y a, parce que c'est un des gros enjeux de précarité aujourd'hui, on parle un public principalement étudiant, la problématique des 18-25 ans. Mais je ne crois pas que par rapport à ma vie concrète il y a 50 ans, ça aurait non plus changé grand-chose. Ça ne m'a pas empêché la situation où j'étais de mener les études qui m'ont permis de devenir enseignant.
Y compris après de devenir un élu très actif dans la mairie de Mons, entre autres.
Oui. Parallèlement, ça, effectivement, pour nos amis auditeurs, il se trouve qu'entre 1977, je le racontais pour 80, et 2001, nous avons participé à une équipe socialiste autogestionnaire qui a piloté la mairie de Mons avec un certain nombre d'inventions, la parité de cette époque, la rotation des mandats, le total bénévolat des élus, la participation des Monsoises et Monsois de nationalité étrangère au conseil municipal et des référendums périodiques sur les orientations budgétaires. Nous nous placions dans une perspective autogestionnaire qui a duré jusqu'en 2001 et qui reste une des sources d'inspiration de la démarche militante que je décrivais tout à l'heure, parce que l'autogestion ne peut pas marcher si dans une société trop inégalitaire.
Mmh. Et je vous remercie aussi pour ça, toi et tous ceux qui vous accompagnaient. Parce que vous étiez précurseur à l'époque, mais vous l'êtes encore aujourd'hui. Hélas, on n'a pas encore atteint ce niveau de démocratie.
Je ne dirais pas hélas, parce qu'il faut toujours des précurseurs pour le monde d'après.
Oui, et il y en a d'autres, heureusement. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés, vous pouvez chercher donc, tout ce qui est municipalisme. Il y a aussi les MOOC qui relient les Colibris et l'Université du Nou, qui relayent pas mal de localités, alors plus ou moins grandes, ça dépend des périmètres, mais qui se sont saisies. Effectivement,
comme tu racontes, depuis 2001, tout ça est terminé et ils n'y trouveront que de mauvais exemples. Mais il y a de la littérature qui raconte comment on a, pendant 25 ans, essayé d'inventer pour la justice et le progrès.
Merci beaucoup. Bon, alors maintenant, on va se concentrer un petit peu sur la version que tu portes. Donc, c'est une des versions de revenus de base qu'on soutient aussi au MFRB. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quelles sont les attentes sociétales et individuelles de cette version?
Voilà, donc le support, c'est un rapport que nous avons produit entre un certain nombre de militants, de chercheurs sociodémocrates pour la Fondation Jean Jaurès en septembre 2022 et qui a été preuve de la remise. justesse de la proposition, actualisée dans ses montants, dans une publication nouvelle en mai dernier, 2024. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place une garantie effective de revenus minimum de survie. C'était une nuance que j'apportais tout à l'heure. Donc, on n'est pas dans la logique du revenu universel, mais que nous qualifions de revenu de base, puisque par son universalité, ça veut dire que pour les 50 millions d'adultes de ce pays, qui suite à la fin des temps, de leur temps, eh bien, il y a l'assurance que ce minimum sera garanti de manière universelle. Et pour atteindre donc cette cible, une garantie effective de revenus minimum, nous visons quatre objectifs. Le premier, les amis du MFRB s'y retrouveront parce que c'est quasiment consubstantiel à leur démarche, c'est l'inconditionnalité. Donc la distribution de ce revenu de base minimal n'est soumis à aucune condition. Il suffit d'être résident en situation régulière sur le territoire national. Ce qui veut dire un fonctionnement automatisé du dispositif qui évitera le non-recours sur les dispositifs des minima sociaux. Actuellement, il y a un tiers de gens d'ayant droit qui n'osent pas, qui ne savent pas, bref, qui ne font pas la demande. Donc ça supprime le non-recours, les phénomènes de fraude, d'indus, etc. Donc toute la complication bureaucratique qui accompagne aujourd'hui notre dispositif de protection sociale. Et au titre de l'inconditionnalité, un autre mérite, c'est en relevant pour tous ceux qui n'en bénéficient pas actuellement pour tel ou tel motif que j'évoquais, leur pouvoir d'achat, leur capacité de vivre ou en tout cas de survivre, d'effacer la grande pauvreté et donc de résorber singulièrement les inégalités. Là, on retourne à l'introduction qui faisait notre motivation militante, une société plus solidaire. Après l'inconditionnalité, qui s'en déduit quasiment, la deuxième objectif, c'est l'universalité, donc une procédure unique pour tous les citoyens ou pas, enfin, résidents adultes à partir de 18 ans de ce pays, qui aura deux objets. Un, justement, être la garantie que tout le monde perçoit automatiquement ce revenu de base, et deux, un grand objectif, un gros enjeu sociétal, je dirais même politique au sens le meilleur du terme, éradiquer, supprimer, annihiler les campagnes de stigmatisation de l'assistanat qui déchire notre société par elle-même, puisque on a un dispositif automatique. Ici, 50 millions de Français, il n'y a plus des assistés et d'autres qui ne le seraient pas. Ça, c'est l'enjeu de l'universalité. Troisième objectif au service de cette garantie effective de revenus, c'est la simplification. Donc, un dispositif dont nous allons voir dans un instant combien il est ultra simple à mettre en œuvre et à comprendre, avec deux grands avantages. Quand tout devient lisible dans le système de prélèvement obligatoire, l'impôt pour faire simple, et le système de protection sociale, les allocations, quand tout est lisible et que chacun comprend pourquoi c'est ainsi construit, toutes les études académiques et le bon sens nous démontrent que l'acceptation de l'impôt et l'acceptation de la protection sociale font un immense bond, et donc que l'on atteint cette société solidaire que nous visions en exergue. Et puis, la simplification a un autre mérite. Quand les flux monétaires, l'allocation au sens de versement du revenu de base pour ceux, pour intégrer dans le revenu pour tout le monde et en complément pour ceux qui n'ont pas d'autres revenus, est automatisé, quand les flux monétaires sont gérés, parce qu'on en a aujourd'hui les moyens, je n'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans, on ne savait pas faire. Aujourd'hui, on saurait faire Simplement, ça va permettre de libérer ces moyens aujourd'hui affectés à la bureaucratie qui accompagne tout ça, pour accompagner les bénéficiaires du dispositif de l'allocation universelle du revenu de base, les plus fragiles, par un accompagnement humain qui sera plus que jamais utile et indispensable. Et nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est l'occasion de prendre un prochain rendez-vous. Le quatrième objectif qui matérialisera ce revenu de base, cette garantie universelle, c'est donc le matérialisation, c'est son effectivité. Et dans ce rapport d'une quarantaine de pages, dont Virginie qui communiquera à nos amis les coordonnées en conclusion, nous démontrons, alors un peu au plan techno, mais la technocratie citoyenne, c'est-à-dire lisible par tout citoyen, tout étudiant qui a un peu de curiosité et qui a écouté son cours d'histoire de troisième et l'actualité ordinaire. Donc la faisabilité en termes de rédaction de la loi fiscale et sociale, il y a dans le rapport des propositions quasiment abouties de modification du Code général des impôts, du Code de la sécurité sociale, etc. Les propositions d'aménagement informatique avec les spécifications principales, la faisabilité budgétaire, comment tout ça s'équilibre, et la faisabilité économique dans la perspective social-démocrate que j'ai avoué, assumé au début de notre échange, c'est-à-dire qu'on préserve la compétitivité des entreprises, ce n'est pas sur elles que pèse l'effort, mais par un transfert entre les ménages des plus aisés, des plus fortunés, vers les plus précaires et ceux qui ont le moins pour vivre. Voilà donc les quatre objectifs qui décomposent, qui décrivent le moyen d'atteindre ce revenu de base à la mode de notre proposition.
Si tu veux bien, je voudrais compléter un petit peu, alors notamment d'abord par un chiffre. Donc quand tu as parlé du non-recours, puisqu'effectivement le fait de rendre automatique, systématique les versements, ça évite de, comme tu l'as bien dit, hein, que les gens doivent s'humilier pour remplir des dossiers, aller à des guichets, faire des photocopies, etc. et s'enlisent dans le côté bureaucratique. Donc tu as cité qu'il y avait un tiers des bénéficiaires qui ne le recevaient pas, alors qu'ils ne demandaient pas, soit par dignité, soit par complexité, soit parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils y avaient droit. Et il y a deux tiers des personnes qui ont droit à ce qu'on appelait à la prime d'activité, donc c'est-à-dire le RSA, non pas socle, mais qu'on a en complément d'un salaire trop faible, par exemple. Et là, on monte à deux tiers des personnes qui ne le reçoivent pas. Et
alors, c'est les plus vrais, Virginie, pour la prime d'activité. On atteint aujourd'hui, depuis le relèvement Macron à la suite des Gilets jaunes, on pense, bon, les études sont incomplètes, mais qu'on est également au même tiers. En tout, sur 10 millions de bénéficiaires potentiels des minima sociaux, que je citerai tout à l'heure quand on entrera dans le détail de la proposition, globalement, on pense qu'il y en a 3 à 4 millions qui, pour les raisons que tu as excellemment rappelées, n'en bénéficient pas. Et donc l'automatisation, l'inconditionnalité, c'est le premier enjeu de solidarité sociale, doit résoudre cette infirmité de notre société.
Et d'ailleurs, mentionner aussi que l'État, ces dernières années, compte bien là-dessus, puisque les départements qui gèrent le versement du RSA, etc., ne reçoivent même pas la somme nécessaire pour tous les bénéficiaires. Ils reçoivent en fait les bénéficiaires qui sont escomptés, donc moins un tiers. J'avais aussi envie de développer, en faisant un petit lien avec certaines expérimentations que vous pourrez retrouver sur la première page du site revenudebase.info, qui montre que même si la somme est petite, le fait qu'elle soit régulière et qu'elle soit sur évidemment un nombre d'années le plus long possible, donc dans les expérimentations aucune n'est à vie pour l'instant, mais on a quand même des expérimentations qui durent depuis 40 ans, donc on a un petit recul, même si c'est pas suffisant pour vivre, on voit qu'il y a beaucoup d'effets qui sont avérés. Juste par le fait que le versement est automatique, il est régulier et donc les personnes peuvent compter dessus et construire de vrais budgets, ce que les personnes qui sont précarisées par le système ne peuvent pas, Et donc, il y a tous les effets de santé, parce qu'il y a moins de stress, parce qu'il y a des investissements sur la nourriture, sur des projets d'avenir, que ce soit sur des travaux pour la maison ou les études des enfants, etc. Donc, même si une somme... alors là, la somme dont tu parles, tu nous donneras le détail juste après, mais elle ne permet pas, a priori, de se passer d'un emploi. Mais même si elle est insuffisante pour s'émanciper de l'emploi, elle est suffisante pour assurer une sorte de respiration psychologique, donc de santé, et aussi citoyenne, de se sentir appartenir à un collectif juste parce qu'on reçoit ça. Et c'est pas une prime de rentrée ou c'est pas une prime de Noël, c'est vraiment quelque chose qui est donné parce que c'est lié au fait juste de vivre. Et donc en termes de dignité morale aussi, il y a un impact et qui va au niveau individuel ressurgir sur toute la société. Ce que je te propose...
Bravo, Virginie, je vais le dire en deux mots, un tout petit peu différemment.
Vas-y.
Si on est garanti, assuré de recevoir un revenu de base dès lors qu'on a 18 ans jusqu'à la fin de ses jours, pour nos aînés, c'est un problème résolu par l'allocation IS, eh bien, on ne s'épuise plus à courir, à négocier, à supplier le système de protection sociale. Et toutes les études, tu le rappelles parfaitement, montrent que dans ce cas-là, on s'occupe mieux de ses enfants, on se soigne mieux, on cherche plus réellement un boulot si on est en mesure de l'exercer, on se rend utile autour de soi. Et donc c'est tout l'enjeu, effectivement, d'un revenu de base garanti au-delà des débats que nous aurons tout à l'heure sur le montant de cette garantie. Et donc, ce n'est pas simplement de recevoir, c'est qu'il y a à tout moment, chaque mois, un minimum qui est assuré. C'était l'idée qui prévalait déjà quand en 88 on a créé le RMI avec toutes ses insuffisances, et parce que c'était des insuffisances de l'époque. Il s'agit aujourd'hui de franchir un saut qualitatif qui permette d'atteindre enfin les promesses de ce projet.
Alors Marc, je te propose d'abord maintenant de te faire une petite pause pour reposer ta voix et profiter de la sélection musicale de Nadia. Nadia, tu nous présentes ?
Merci à Nadia.
Alors c'est la balade du pauvre chantée par Raphaël.
Chaque matin, comme ça sur le chemin, regarder le jour qui va et qui vient, tendre la main. Et je vis sous un pont, probable que j'aime pas les maisons. Ma vie, je l'ai quittée, c'était il y a longtemps, peut-être un été. Oh mon vieux, je suis noir. Tu sois au matin, plein comme une malle, cabine raide, comme un passe lassé, je connais même plus mon nom. Je ne resterai pas trop tard, j'aime mieux aller ailleurs, là où ce serait pas pire, peut-être même meilleur, on peut toujours rêver. J'espère ne pas revenir. Ils m'ont trouvé un matin, raide comme un parchemin, avec dans les poches deux, trois souvenirs, rien d'autre qu'une broche. On menait en camion dans un genre de maison. Ils m'ont dit c'est que mon vieux, tu pouvais pas tenir guère plus longtemps. Qui disait, c'est pas brillant. Non, 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 non. Bien content de partir. Non, 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 non. J'espère ne pas revenir. Non, 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 non. Bien content de partir. Non, 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 non. Chaque matin, comme ça sur le chemin. Regardez la vie qui va et qui vient, qui colle à la peau. Je m'en vais ce soir, je finirai bien quelque part, loin des lits en papier, de mes pieds blessés, de leur cheminée noire. Du vent du soir.
Merci beaucoup, Nadia. Marc, on revient vers toi.
Quand on aura mis en place la garantie de revenu vraiment universelle, il n'y aura plus les pauvres qu'on pourra chanter, mais on pourra quand même garder la balade comme témoignage d'une époque heureusement révolue.
C'est une idée, oui. Oui, parce que je pense qu'il faut, il faut garder la mémoire pour éviter de retomber dedans. Donc... Bon, alors maintenant, on a très envie de savoir exactement comment est-ce que tu organises, comment est-ce que même tu finances cette version-là. Est-ce que vraiment c'est crédible, puisque c'est tout souvent ce qu'on entend, hein, un des freins, outre les freins psychologiques ou moralisateurs sur le mérite, etc. La phrase, la question ou le contre-argument qui revient le plus souvent, c'est « oui, mais c'est pas finançable, où est-ce que vous avez trouvé l'argent ?» Comment est-ce que tu réussis à organiser cette version ?
Le « tu » est pluriel.
D'accord.
Ceci est l'aboutissement d'une réflexion à tous les niveaux tels que je l'ai expliqué, même si chez Jean Jaurès, il y a plusieurs approches de cette problématique. Bon, nous sommes beaucoup de militants, un peu experts de ces sujets ou pas, à y avoir travaillé pour construire quelque chose de très pratique. Le sous-titre du rapport s'appelle « une approche pragmatique ». Donc il s'agit de réduire à néant les objections que tu imaginais, et c'est ce qu'on va montrer dans cette seconde partie, comment on aboutit de manière très pragmatique à ce résultat que nous décrivions tout à l'heure. C'est en intégrant le dispositif de minima sociaux dans le barème, dans le mécanisme automatisé aujourd'hui de l'impôt sur le revenu. Donc la solution pratique, dont nous allons montrer combien elle est immédiatement faisable sous réserve d'une volonté politique, c'est, retenons ce terme, l'intégration socio-fiscale. On fait pour les minima sociaux. Je ne m'étends pas sur d'autres enjeux, les allocations familiales, l'allocation logement, etc., qui sont hors du scope, hors de notre enjeu immédiat, même s'il y a des adhérences. Donc, intégrer les minima sociaux dans le bas du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, je vais décrire ça en quatre. Le premier, il s'agit donc, le RSA disparaît, la prime d'activité que tu nous rappelais, disparaît également, l'allocation de solidarité sociale, les bourses et le bas de barème, la décote, etc. Et je vais inviter nos auditeurs à faire un petit test pratique, soit pour eux-mêmes, en tout cas Virginie, tu peux le faire sur la déclaration de revenus que tu viens de boucler cet été, ce printemps, comme enseignante. Et pour nos auditeurs étudiants qui ne seraient pas encore contribuables, eh bien, ils demandent à papa, maman de leur montrer leur déclaration de revenus. Ils verront que pour l'impôt sur le revenu français, il y a une formule simplifiée qui permet d'échapper à de nombreux calculs, qui, pour tous ceux dont le revenu est entre 25 par personne, 25 000 et 75 000 euros, c'est-à-dire l'immense masse de ceux qui sont imposables, on laisse pour l'instant du côté ceux qui ne le sont pas, qu'on va justement intégrer dans le dispositif, donc l'immense masse de ceux qui sont imposables, en laissant de côté le haut de barème qui, lui, va payer plus. Donc ceux-là, leur impôt se calcule de manière très facile, c'est 30% de leur revenu revenu imposable, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, moins, pour 2024, l'année en cours, 6 714 euros, c'est-à-dire 560 euros par mois. Et là, nous parlons d'alignement des planètes. Ce montant de 560 euros par mois est le même que celui, à quelques euros près, parce qu'évidemment, tout est actuellement épouvantablement compliqué et la proposition aboutit à unifier tout ça, le même montant que le RSA, que la garantie de revenus de la prime d'activité dont nous avons parlé tout à l'heure, le montant de l'ASS ou le montant de la catégorie la plus élevée des bourses si on le verse sur 12 mois. Donc, l'idée, c'est que tout ce fatras stigmatisant
illisible,
disparaît et désormais, pour tous les actifs, on n'entrera pas aujourd'hui dans le détail des personnes âgées pour lesquelles le problème est facile à coordonner, tous les plus de 18 ans, s'ils le souhaitent, s'ils n'en veulent pas, on ne va pas les obliger, mais c'est automatique dès lors qu'on est contribuable, à partir de 18 ans jusqu'à 75 000 euros de revenus, là on est dans les 5 centiles les plus élevés de la société, la synthèse, l'intégration du revenu de base et de vos prélèvements, c'est donc 30%, on vous prend 30% du revenu au premier euro et on vous met en crédit 6 714 euros annuellement, c'est-à-dire 560 euros par mois. Donc ça c'est tout bête. À l'article 197 du Code général des impôts, on modifie le barème et on a un barème binôme, une constante positive, c'est le revenu de base, et une constante négative, c'est le prélèvement de 30% sur les revenus, qui fait que désormais, ce revenu est garanti. Deuxième élément de la construction, tout le monde a compris donc ce qu'il en était de ce binôme. On apprend le binôme en quatrième, hein, quand on est un peu attentif à son cours de mathématiques. Quatrième, j'ai dit. Le deuxième levier, le deuxième instrument, c'est une simplification forte du prélèvement à la source. Tout le monde a en tête que depuis 5 ans, notre impôt sur les revenus fonctionne de manière automatisée à la source, mais avec un dispositif illisible, incompréhensible. On va chercher le revenu de N-1, N-2. Bon, bref, personne ne comprend comment ça fonctionne, mais voit le résultat et satisfaisant. Ben, on va remplacer tout ça par un système ultra simple, illisible. Donc, en termes de démocratie, c'est important, et de consentement à l'impôt, il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative, tous les employeurs, la fonction publique pour Virginie, Radio Campus pour Nadia, ou c'est vrai aussi pour les retraités dans mon cas, communiquent à la fin du mois tous les éléments de revenus des bénéficiaires, des revenus, ce qu'on appelle les tiers payeurs. Ce qui veut dire que pour plus de 90% des citoyens ou des résidents, et on arrive à 93-94 quand on ajoute les revenus de capitaux mobiliers qui sont gérés également de manière automatique, pour 94% des revenus de la population, l'État et la sécurité sociale savent tout sur nous au 2 ou au 3 du mois. Et pour les travailleurs indépendants, le reste, les revenus fonciers, on le sait de façon approximative avec les revenus déclarés l'année d'avant. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte qui n'existait pas il y a 10 ans, où au début, à la fin de chaque mois, la collectivité, le système socio-fiscal, c'est tout sur nous, sur la période, en ce qui concerne nos revenus, sur la période écoulée. Donc il est facile, de même façon que notre fournisseur d'accès Internet, notre fournisseur de téléphone, notre banque, tous les réseaux qui gèrent nos comptes, sont capables en quelques jours, quelques nanosecondes de leur ordinateur central, de nous envoyer la facture de ce qui s'est s'est passé sur la période écoulée, moyennant des investissements qui sont sous la main, qu'il suffit simplement de réorganiser, l'administration socio-fiscale, au moins N+1, est capable d'appliquer sur les revenus glissants des 12 derniers mois le barème qu'on évoquait tout à l'heure, 0,30 du revenu prélevé et donc l'allocation annuelle de 6714 qu'on ramène au moins. Évidemment, ça s'applique aussi pour les 5% les plus riches, c'est universel, on l'a dit. Et donc on a un compte, c'est déjà un peu la réalité pour ceux qui sont prélèvement à la source, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, on a un compte socio-fiscal intégré en crédit et en débit. Si on n'a pas de revenus ou très peu de revenus, eh bien, le solde des 6714 ramenés au mois est supérieur à ce qui est prélevé. Et donc, on est crédité au 15 ou au 20 du mois. Et si on n'est plus aidé, eh bien, évidemment, on est débité. Donc, c'est ça le mécanisme d'automatisation qui s'appuie sur l'intelligence du barème qu'on a évoqué, la simplification du barème et les investissements de traitement des données qui ont été réalisés par l'administration fiscale et sociale dans les 10 dernières années. Ça, c'est le cœur du réacteur qui est essentiel à comprendre, mais je crois qu'on peut raconter dans le métro à n'importe quel citoyen. C'est vraiment le bon sens de base. Troisième problématique, question, le doute que tu as fait semblant pour animer le débat, Virginie, de créer le financement. Il est vrai que cette automatisation coûte un peu d'argent. Parce que actuellement, les 18-25 ans sont exclus du RSA, ils ont droit à la prime d'activité, mais s'ils n'ont aucun revenu, bon, ça ne marche pas. Les bourses, on sait comment ça fonctionne. Le RSA lui-même, il y a, on l'a dit, un tiers de non-recours. Donc tout ça, qui n'est actuellement pas versé, donc qui serait demain dans cette allocation garantie, dans ce revenu de base garanti, on est au socle pour l'instant du raisonnement à 560 euros par mois, ça coûte, avec le lissage du dispositif pour avoir un barème simple et démocratiquement acceptable, donc qui va jusqu'à 1,8 SMIC, comme, il suffit de faire le calcul, quand vous avez 6714 en plus 0,30 du revenu fiscal, du revenu imposable en moins, ça s'annule, le dispositif s'annule par rapport à la réalité, 1,5. Et donc, ça coûte au total 14 milliards d'euros par an qu'il faudrait gager. Et donc, c'était mon propos dans la réduction des inégalités et l'organisation des transferts quand nous avons commencé cet échange. On va transférer 14 milliards tous les ans du haut vers le bas. C'est pas les centaines de milliards du revenu universel, c'est moins que la suppression de la taxe d'habitation par Macron. Donc c'est des chiffres immédiatement accessibles, surtout que nous disons dans ce rapport comment on va trouver ces 14 milliards. Donc c'est pas sur les entreprises, nous sommes des sociodémocrates, nous préservons la compétitivité des entreprises, c'est bien sur la redistribution du haut vers le bas. Il y a 10 milliards qui se trouvent en supprimant le régime spécial des revenus de capitaux mobiliers qui sont taxés en dessous de tous les autres. On n'entre pas dans le détail, mais chacun a la flat tax, qui est une des grandes fiertés et une des grosses cochonneries du septennat Macron. C'est la suppression d'un certain nombre de niches absurdes documentées par la littérature, y compris la plus libérale, sur les successions. Il n'y a pas besoin de toucher au barème des successions, il suffit de corriger un certain nombre de trous qui ne servent à rien au bénéfice de notre économie. C'est la remise en place d'une imposition spécifique pour les grandes fortunes, mais non pas le vieil ISF qui fonctionnait pas, un truc complètement à bout de souffle, qui taxait les millionnaires et qui oubliait les milliardaires. Nous avons des propositions pour récupérer 3 milliards, tout ça. Et c'est la suppression de la niche Ursule, qui est également une des cochonneries macrono-sarkozyste. Donc, moyennant ces ajustements du haut de barème, la correction de niche infondée, on a nos 14 milliards. Dans l'instant, c'est en gros une page à modifier en touchant à une collection d'articles du Code général des impôts. Et quatrième temps, pour ceux qui trouveraient que c'est trop court, qu'avec 560 euros par mois, ils auraient bien raison, on ne fait que survivre mal, c'est le gabarit actuel du RSA, de la prime d'activité et de tout le reste, et de leur bourse s'ils sont étudiants, eh bien, le rapport étudie des variantes au-delà de ce socle, à votre bon cœur, messieurs, dames. Si vous voulez plus de transferts du haut vers le bas, eh bien, il faudra faire payer plus d'impôts sur le revenu aux personnes aisées, c'est-à-dire au-delà, c'est une question arithmétique, enfin, mécanique, là, au-delà de la moyenne des revenus qui se trouve au-dessus de 26 000, 27 000 euros. Donc, on fait payer un euro de plus à 27 000 et évidemment beaucoup plus à 100 000 ou 200 000. Donc, en tordant un petit peu la courbe qu'on a décrite, il faut savoir que pour remonter le minimum garanti de 100 euros par mois, donc passer de 560 à 660, et quasiment être au seuil de pauvreté. Donc il n'y a plus de vie dans cette hypothèse, il n'y a plus de pauvres en tenant compte de l'allocation logement. Donc pour les deux déciles inférieurs, 100 euros d'amélioration du revenu garanti, c'est 12 à 15 milliards par an qu'il faudra aller chercher par une redistribution plus serrée. Donc, je crois, sauf démenti, et je serais heureux si les auditeurs sont troublés, que Virginie leur communique mes coordonnées, peut-être qu'on s'est trompé dans les calculs, dans le raisonnement, il faut poursuivre l'échange, mais nous sommes convaincus, là, que sur ces quatre points, il y a un dispositif d'une robustesse inattaquable. Il nous restera dans un instant à voir comment on y arrive, et notamment les conditions politiques.
Bon, si c'est toi qui fais les transitions, c'est extraordinaire.
Tu as beaucoup de choses à ajouter, j'en suis sûr.
Ben, en fait, quasiment pas, mais c'est vrai que j'aimerais juste insister sur un détail, entre guillemets, pour tous ceux qui le vivent, c'est ces fameux 3 mois qui sont une torture pour tous ceux qui sont au RSA, et notamment ceux qui travaillent, puisque toutes les déclarations sont décalées de 3 mois, donc les ajustements décalés de 3 mois, ne serait-ce que sur ce point-là, il y aurait un soulagement énorme à utiliser, comme tu disais, les logiciels qu'on a aujourd'hui, pour que ce soit lissé mois par mois, quoi. Voilà, c'était juste une parenthèse.
On commence à 18 ans et ça va jusqu'à 65 ans, où là, on bascule, si on a une trop petite retraite, dans l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Donc il n'y a plus 3 mois. Quand ça se fera, parce qu'il y a une nécessité sociale qu'un jour on y arrive, comme en 88, François Mitterrand nous avait démontré la nécessité du RMI, quand ce sera fait en France, et ça pourra inspirer d'autres pays qui ont des dispositifs bureaucratiques analogues, on encore comment notre société moderne, avec sa gestion en base de données et l'intelligence artificielle, pouvait vivre avec de pareils anachronismes, sauf le plaisir de torturer les pauvres.
On va demander à Nadia de nous proposer une pause musicale, ce qui va permettre, alors officiellement, ça, c'est pour ta voix, Marc, officieusement, c'est aussi pour nos cerveaux, pour nous permettre d'avaler un peu tout ça, parce que tu étais en même temps très construit et très précis, donc on va pouvoir digérer avant, comme tu l'as dit, connaître les plus petits pas possibles, les prochaines étapes.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours béchant, toujours béchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
On reprend. Je crois que maintenant nos cerveaux sont plus frais. Marc, est-ce que tu peux nous détailler donc...
Alors j'ajouterais à l'écoute de Georges Brassens, effectivement,
qui t'inspire,
une assistance pour qu'un jour, une autre forme, on travaille de la dimension de l'accompagnement vers le travail éventuellement ayant évolué pour que Martin ne le vise plus jusqu'à la tombe, comme Georges Brassens nous le racontait. Il nous reste donc le dernier temps. On a démontré au temps 2 que tout cela était abattu sous nos mains, parce que les outils aujourd'hui existent. Il suffit d'y mettre une intelligence collective et une volonté politique. Donc je me situe dans une hypothèse, c'est ça le plus incertain, une hypothèse à construire ensemble, donc d'un gouvernement qui aurait envie de réformer. Donc on n'est pas dans la rupture avec le capitalisme, on a encore des entreprises, on les essaie de faire fonctionner de manière compétitive, mais une société plus solidaire et qui consent à son organisation collective. Donc cette hypothèse étant réunie, et avec un peu de bon sens, de démocratique pour appuyer tout cela, eh bien ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui est analysé dans le dernier des détails dans ce rapport de la Fondation Jean Jaurès, nous sommes en mesure d'avancer le calendrier suivant. On est à l'été, on termine l'été, on sort des Jeux Olympiques, on fait la loi de finances. Au 1er janvier d'application de la loi de finances, aucune difficulté, quelques articles l'ont dit, à mettre en œuvre le barème que j'ai décrit. Tout ça est déjà rédigé pour en discuter, et lancer également les 14 milliards de financement dont certains dispositifs peuvent mettre 12 à 18 mois pour devenir opérationnels. Donc au 1er janvier N+1, on a touché qu'au barème, et donc dans le prélèvement à la source tel qu'il existe, on a déjà ce nouveau gabarit, ce nouveau format, mais l'automatisation telle qu'on a décrite n'est pas encore fonctionnelle, parce que pour ça, il faut, nos auditeurs l'ont compris, ajuster les logiciels de la sécurité sociale et de mon ancienne administration, donc la direction des finances publiques, et les intégrer. Donc ça, tenu compte de ce qui existe déjà, qui est très puissant, nous l'évaluons à une première année de chantier d'aménagement informatique, qui pour partie, c'est ça qui est assez paradoxal, seront des simplifications, notamment pour les entreprises qui auront à gérer chaque mois le prélèvement à la source. Ce serait un allègement considérable, outre la visibilité. Et donc, on lance en même temps qu'on prépare la loi de finances ces 18 mois de travaux informatiques pour que le schéma... Alors, il y a un diagramme dans le rapport qui montre clairement comment ça fonctionne pour ceux qui aiment bien les constructions informatiques, pour que au 1er janvier N+2, on entre dans une année de test en blanc. C'est une chose où il ne faut pas se louper, c'est un enjeu de crédibilité. Tu y as bien insisté, Virginie, et on te rejoint. Donc la deuxième année d'automatisation du système, qui fonctionne pour l'instant incomplètement, Mais de toute façon, chacun a son Europe, hein, puisqu'il y a toujours, comme aujourd'hui dans le prélèvement à la source, la régularisation des quelques euros de décalage à l'été d'après. Donc la deuxième année, N plus 2, c'est un test à blanc. Donc tout le monde voit comment ça fonctionnerait une fois qu'on aura abouti, ce qui permet de repérer les erreurs, vraiment quelque chose de parfaitement réussi, si bien que en ayant corrigé les éventuels bugs qui n'ont pas de conséquences puisqu'on est à blanc, N plus 2, au 1er janvier, N plus 3, sauf démenti d'experts ou de techniciens que nous supplions d'engager le dialogue avec nous, eh bien nous soutenons que la garantie de revenus sera vraiment universelle et effective. Je conclue, CQFD.
Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à tout ce qu'on peut entendre, que le revenu de base est une utopie, que alors bon, c'est pas finançable, etc. Là, vous avez été jusqu'à même prendre en compte la nécessité, les délais nécessaires même pour techniquement mettre en place les versements et mettre les différentes parties de l'État en adéquation. Donc c'est très crédible, c'est précis et c'est irréfutable en fait.
Eh bien, à nos amis les auditeurs, de lire ce rapport, d'échanger avec nous, de regarder également par exemple le diaporama qu'on peut leur communiquer. Et s'ils ont des doutes, s'ils croient que c'est réfutable, qu'ils nous le disent, on discutera et il y aura peut-être des améliorations, des précisions à apporter. Mais notre conviction, c'est que c'est effectivement, comme on vient de le ressentir dans cette heure d'échange, extrêmement robuste.
Et pour ceux qui se dirait, comme tu l'as évoqué aussi, hein, qu'un RSA pour tous, même automatisé, on a bien dit que ça serait déjà un grand soulagement en termes de précarité, de sentiment de précarité aussi, en termes de confiance en soi, en l'avenir et dans la collectivité. Mais effectivement, on n'en vit pas, loin de là, on survit. Tu l'as dit dès le début que c'était un outil de survie. Et en même temps, tu nous as dit aussi que c'était paramétrable et que si la volonté politique dans la communauté, démocratiquement, décidait de faire plus, il serait assez facile de rajouter des étages, donc des niveaux pour aller, par exemple, jusqu'au seuil de pauvreté qu'on estime à 1 000 euros en France aujourd'hui. Mais voilà, pareil, avec des échelons et puis des choix paramétrés collectivement, évidemment. Mais voilà, en tout cas, on peut se dire très facilement que le premier pas, qui serait déjà une grande simplification et un grand soulagement pour tous ceux qui dépendent, entre guillemets, des aides, qui sont, entre guillemets, bénéficiaires, en gros, qui sont précarisés par le système et du coup, que le système doit compenser.
En ajoutant, Virginie, si tu me permets, un dernier mot, par l'inspiration syndicale, parce que nous avons travaillé là-dessus aussi avec des amis syndicalistes de la CFDT sur l'enjeu de l'accompagnement. Il ne s'agit pas simplement de versement, mais que les moyens de la collectivité, de la protection sociale, soient désormais mobilisés non plus pour pinailler au dernier euro, mais pour aider les gens sur cette base que tu as très bien décrite, à se soigner, s'occuper des enfants, se rendre utile et entrer dans l'activité professionnelle, parce que notre approche, celle des accords avec l'utopie du revenu universel, notre approche du revenu de base n'est pas antagoniste, mais au contraire complémentaire de la mobilisation pour le travail que pauvre Martin et tous les autres, nous devons également à la collectivité.
Et je peux même rebondir avec des témoignages que, parce que voilà, quand on est dans un groupe local, notamment celui de Lille, on va fréquenter la braderie Lille. Et figure-toi que lors de la braderie, on a rencontré un certain nombre de personnes qui sont dans le travail social, justement, avec divers postes, diverses appellations, mais qui, quand on les interpelle sur le revenu de base, se disent d'abord soulagés pour les bénéficiaires. Hein, j'utilise toujours plein de guillemets, parce qu'on ne fait que compenser finalement des injustices qu'on crée par ailleurs. Mais ces personnes sont soulagées aussi parce que leur cœur de métier et leur cœur tout court, pourquoi elles font ce métier, c'est pour aider les gens, c'est pour accompagner, c'est pour...
Ça permet de donner du sens au travail social, qui n'est pas un sens de comptable ou de dame patronnelle du 19e siècle.
Ou encore pire, de flicage et de sanctions, oui. soi-disant justes, mais la plupart du temps très humiliantes. Et en même temps, j'ai envie du coup d'en profiter, de faire une petite aparté pour toutes ces personnes qui travaillent, dont le métier c'est d'accompagner les autres, et avec beaucoup de courage, surtout dans les conjectures actuelles, et qui évitent le plus possible, en tout cas ce qu'elles peuvent, déjà de craquer elles-mêmes, parce que les conditions de travail sont devenues impitoyables, et de réussir à survivre aussi à cette frustration de ne pas pouvoir aider et de voir des personnes qui sombrent et avec cette c'est complètement mortifère de s'engager dans un métier pour soulager, pour aider, pour accompagner, parce que voilà, on peut tous avoir des accidents de vie comme on dit, et de pas pouvoir le faire, et j'en ai rencontré un certain nombre qui aussi appelaient le revenu de base de leur vœu pour pouvoir vivre plus de sens et plus de cohérence dans leurs valeurs, dans leur métier. Merci beaucoup, Marc. Alors, pour clôturer, évidemment, on va renvoyer nos auditeurs. Alors, pour nos stricts auditeurs sur Radio Campus, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Jean Jaurès, et si vous tapez une garantie de revenu vraiment universel, vous tomberez sur le rapport dont Marc a parlé. Et si vous allez voir juste après la sortie sur Radio Campus, donc sur le site revenudebase.info, vous trouverez dans le petit texte directement des liens vers ce fameux article, mais aussi vers la présentation résumé et puis illustré que Marc vous a préparé, et comme il l'a dit, il est toujours accessible à toutes vos remarques pour faire évoluer ce projet concret. Merci beaucoup, Marc, d'avoir tenu une heure avec nous, et Nadia nous propose une petite surprise qu'elle aime beaucoup. Nadia, tu nous proposes?
Alors, c'est Misère chantée par Coluche.
Juste, j'ai oublié une micro-parenthèse. Je vous rappelle, pour tous ceux qui seraient intéressés, le 9 et 10 novembre donc 2024, c'est très très bientôt, on peut se retrouver à Givors, c'est juste à côté de Lyon, pour 2 jours d'échange, de table ronde, de débat autour du revenu de base, et ça s'appelle les états généreux du revenu de base. Donc on s'y retrouve très bientôt.
Je vous préviens tout de suite, ma chanson passe pas à radio ni télévision, mais on a rien à foutre. Il y a quelque chose à dire. C'est pas comme les chansons qui passent à radio, télévision. Hein. Paf, dans la gueule, on la fout. Pas m'emmerder, puis c'est tout. Face à la télévision, je chante des conneries et des conneries. Paf, dans la gueule. Et tout ça pourquoi? Pour faire du fric. Du fric et du fric. Et qu'est-ce qu'ils en font, du fric? Qu'est-ce qu'ils en font, du fric? Je vais vous le dire, moi. Ils le dépensent. Salaud. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre. Misère. De toute façon, ça a pour durer, parce que, attention, attendez que la gauche pense à EWR en 2012. Attendez que la gauche pense à EWR. Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on... Au goulag ! Allez, allez ! Et tricoter, pull à verre, du luxe. Avec des manches longues, qui fait pas froid au coude. Au coude. Violence. Non, parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre, Misère. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Non. Sans.